France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Se faire plaisir, réconforter les corps et les esprits, tel est notre pari du jour, et je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ce que les anglophones appellent la comfort food, et les francophones plutôt alimentation-réconfort, est apparu, semble-t-il, en 1966 dans un article du journal américain Palm Beach Post, qui expliquait que pour lutter contre le stress et le mal-être, certaines personnes se tournaient vers des aliments doudous qui leur rappelaient les plats d'enfance et les plaisirs simples de la vie. Autrement dit, des plats qu'on mange sous la couette, devant un bon film, les soirs de blues, et c'est encore plus vrai quand il fait froid et que les fêtes sont passées. À l'automne 2024, le nouveau livre de la star anglo-israélienne Yotam Ottolenghi, l'homme qui a fait entrer le tiny dans les supermarchés, dit la journaliste Catherine Roig avec grande justesse. Ce livre s'intitulait précisément et sobrement « Comfort », preuve, s'il en était, de la demande collective. Eh bien, en ce début d'année, pour nous réchauffer, nous avons à notre tour choisi trois livres qui viennent de paraître et qui, selon nous, proposent des recettes de cuisine réconfortantes, des pâtes, des plats libanais et des tourtes. Déborah Dupont d'Aguet, bonjour.
Bonjour.
Vous tenez la librairie gourmande, à la fois à Paris dans le 2e arrondissement et à Dijon, à la Cité gourmande, et vous êtes autrice. Après les cookies, la brioche, les boulettes et les petits gâteaux qui nous fait rêver, dans tout dans la même collection, vous faites paraître les pâtes de nos rêves, texture et technique ultime chez First. À vos côtés se trouve Hugo Riboulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes champion de France de pizza, d'abord. Ensuite, vous avez été vainqueur de Top Chef en 2023. Et vous êtes chef avec Alban Auvray du restaurant Groute la Tourte, joli jeu de mots, qui est dédié aux tourtes, comme son titre, son nom l'indique. Et vous êtes l'auteur d'un premier livre intitulé « Tout en croûte » qui est paru chez Albin Michel. Et enfin, Carla Rebez, bonjour.
Bonjour.
On dit Rebez ?
Rebez, oui.
Rebez. Vous êtes la fondatrice du restaurant « It's Time ». Et autrice de « Ma table libanaise pour une cuisine », alors le titre dit tout, « Pour une cuisine joyeuse, simple et généreuse » chez Marabout. En vous installant dans le studio, nous nous sommes aperçus, alors c'est un pur hasard, une pure coïncidence, qu'en plus de tout ça, vous étiez voisins, tous les trois, puisque tout ça se tient dans un mouchoir de poche à Paris, dans le 2e arrondissement. Mais les bonnes résolutions de la nouvelle année font que d'abord, effectivement, Déborah, vous êtes déjà à Dijon avec la librairie, que vos livres paraissent dans toute la France et que vous avez des bonnes résolutions, Hugo et Carla, l'ambition de toucher toute la France. Hugo ?
Oui, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'on a énormément de clientèles qui viennent de toute la France et on nous demande quand est-ce qu'on vient à Toulouse, quand est-ce qu'on vient à Clermont-Ferrand, quand est-ce qu'on vient à Nice.
Avec vos tourtes, notamment.
Ouais, ouais, c'est ça, avec les tourtes quand ils viennent déguster. Et là, on essaye de répondre à cette demande où on va installer d'ici fin janvier le Chrono Fresh dans toute la France. Donc voilà, pour que les gens ils puissent déguster, commander 48 heures en avance, ils seront livrés chez eux après et manger nos tourtes dans toute la France.
Et vous, Carla Rebez ?
Ben nous, on fait des événements déjà en Europe et en France. Et là, on a, au printemps, on s'installe pour toute une saison en Touraine. Et en discussion finale pour aussi un endroit dans le sud.
Bon, voilà qui est dit. Donc, ça n'est pas que parisien. Et c'était important de le préciser. Alors, la comfort food ou la cuisine réconfortante, je m'adresse d'abord à vous, Déborah Dupont d'Aguet, à la libraire, disons. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet en librairie ? On a l'impression que la cuisine réconfortante, ça a toujours existé, mais que depuis quelques années, on a plaqué comme une sorte de terme marketing dessus avec un certain nombre de livres, et pas seulement le livre d'Ottolenghi.
Non, effectivement, ça existe depuis longtemps. Avant, c'était ce qu'on appelait la cuisine de grand-mère. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'était les livres de Triche de Seigne, il y a une vingtaine d'années, « Petit plat entre amis ». Et là, effectivement, pour moi, ça a été un peu la révélation de ce que c'est que le comfort food. Ensuite, on a eu Jamie Oliver, dont le livre s'appelait effectivement « Comfort ». Et puis là, le phénomène Ottolenghi. Et ce qui paraît aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que pour beaucoup de personnes, la nourriture réconfortante, ça veut dire du gratin, ça veut dire du fromage fondu, ça veut dire des choses...
Souvent, c'est la raclette.
Souvent, voilà. C'est du fromage fondu, quelque chose de gras. Et Avec ces phénomènes un peu plus récents, que ça soit Confort ou que ça soit nos livres à tous les trois, le dénominateur commun, c'est qu'en fait, le fromage n'est pas du tout au centre de nos plats doudous, de nos plats réconfort. C'est plutôt le goût, c'est plutôt peut-être de l'umami, si je veux synthétiser. C'est un truc qui va faire pchit dans le cerveau, qui va faire qu'on va se sentir bien. Mais ça n'est pas forcément du fromage. Et ça, je trouve ça vraiment important de le préciser, parce que c'est un raccourci qu'on fait trop souvent.
Hugo Riboulet, c'est quoi qui fait pchit dans votre cerveau?
Non, c'est vrai que pour moi, Déborah a la raison, c'est que en fait chacun a sa dénomination aussi de comfort food. On peut très bien, voilà, un soir d'hiver, il fait très froid, avoir envie d'une soupe, un velouté de potimarron, ça peut être comfort food. Après, il y a plein de façons de d'être comme ça. Et bon, moi, un bon plat de lasagne, c'est un comfort food.
Ah bah, vous
aussi.
Faites plaisir à Déborah, voilà. Qui
signe les pâtes. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est chacun a sa dénomination de comfort food.
Ce serait quoi la vôtre, Carla Rebès?
Moi, c'est plusieurs. Premièrement, c'est des souvenirs.
La cuisine de grand-mère, par exemple.
Oui, c'est des souvenirs, mon enfance, des amis, une tablée, la famille. Pour moi, mon comfort, et je suis libanaise, même si j'habite Paris depuis très longtemps, c'est une manouche et zaatar avec de la labneh, parce que à la première bouchée, je suis déjà dans mon voyage. Et la deuxième chose, c'est un poulet rôti, je dirais, en hiver, avec le toum, c'est cette crème d'ail qu'on a au Liban, qui est avec, généralement, on a de très beaux paysages au Liban, on a même la neige, on est dans les montagnes, on a ce froid, on a ce poulet rôti, on a l'ail, on a les pommes de terre, on peut les manger en frites, au four, et là, avec des herbes du jardin. Et c'est ça le confort pour moi.
Déborah,
le réconfort.
Je suis complètement d'accord. C'est effectivement les souvenirs d'enfance. Alors moi, ça va être.
C'est une madeleine presque. Hein,
bouillon de poule vermicelle. Ça, effectivement, les boulettes de viande sauce tomate.
Fou.
Et c'est souvent aussi quelque chose, moi, que j'aime bien manger à la cuillère. Et je me rends compte que j'ai transmis...
Vraiment retombée en enfance.
Ouais,
hein.
Je l'ai transmis aussi à mes enfants, parce que ma fille, maintenant, est étudiante. Et elle est passée là me voir hier soir. Et c'est vrai que c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais tu sais, maman, en fait, je me rends compte, je mange souvent dans un bol avec une cuillère. Et le simple fait d'avoir ce geste de la cuillère que t'enfonces dans le bol, qui va aller racler le fond, ça va mélanger les différents ingrédients, le petit jus, des choses comme ça, fait que ouais, on est un peu dans son cocon. Et ça, c'est quelque chose quand même, je trouve, très, très, très important et réconfortant.
Est-ce que les pâtes, ça n'est pas de la cuisine réconfort par excellence?
Alors, les pâtes, si, je pense qu'effectivement...
Les gratins de macaroni, les lasagnes, non, disait Hugo.
Alors, c'est sans doute l'onctuosité de la sauce, parce que très souvent, la pâte est accompagnée d'une sauce qui va être veloutée, qui va être onctueuse, qui va être plus ou moins fromagère. Et je pense que c'est ce côté très enrobant, finalement, qui fait que très rapidement on se dit ah bah oui c'est réconfortant, que ça soit effectivement la sauce tomate avec les boulettes, que ça soit le gratin de macaroni, que ça soit c'est la recette que je vous ai donnée pour le site internet, les gnocchis au pesto de pistache. Moi, c'est la recette où je suis tombée amoureuse en Sicile. Je suis descendue de l'avion, premier restaurant où on se pose. Et là, je vois gnocchi pesto de pistache. Je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais le pesto plutôt à la génoise, donc avec basilic et... Et là, on se retrouve avec une sauce très crémeuse, onctueuse. Ça c'est merveilleux en bouche. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est devenu donc un plat réconfort, on va dire, récent, qui est rentré dans mon patrimoine culinaire il y a 5 ou 6 ans. Mais c'était pas du tout un souvenir d'enfance. Mais c'est devenu un souvenir.
En d'autres termes, les mots qui peuvent qualifier la comfort food ou la cuisine réconfort, c'est des mots en E, c'est chaleureux, onctueux, crémeux.
C'est
vrai.
Ouais, c'est vrai. Crémeux, réconfortant.
Pas nécessairement gras, riche,
non,
sucré,
parce que moi, des bonnes pâtes à la norma ou voilà, à la tomate, moi, c'est un peu mon péché mignon, c'est ce qui va être réconfortant plutôt qu'aller quelque chose à la crème ou une carbonara. Je pense que, et après, il y a le côté aussi, moi, c'est plutôt les plats en sauce tomate qui vont être mon réconfort.
J'en ai pas beaucoup vu dans Tout en croûte. Si, il y en a un petit peu.
Mais bon, vu que c'est plutôt des cuissons en croûte, ça va pas être des cuissons en sauce. Donc, du coup, on va pas forcément retrouver les plats en sauce tomate. Mais par contre, il y a beaucoup de plats réconfortants parce que dès qu'on parle de croûte, de feuilletage, de pâtes brisées, quelque chose qui enferme, qui enveloppe un mets, là, ça va, on va tout de suite avoir quelque chose qui va être gourmand et réconfortant.
On parlait de la vogue de ces plats réconfortants et qui est notre sujet du jour. Est-ce que les plats en croûte, on voit leur grand retour du pâté
mode,
en croûte.
Ouais.
Donc, est-ce que vous cédez à la mode, Hugo Riboulet, ou est-ce que chez vous c'est une passion qui est bien plus ancienne?
Non.
Enfin, bien plus ancienne, vous avez une vingtaine d'années, donc.
Franchement, c'est moi, j'aime pas faire en fonction de la mode. Je fais en fonction de ce qui me plaît moi. Et moi, c'est juste en fait, c'est des plats que déjà à l'origine, dans les anciens restaurants étoilés, je bossais. On faisait beaucoup de pitiviers. Et ça m'a toujours fasciné, ces pitiviers, de voir la technicité qu'on a. Quand je voyais d'autres chefs de partie, quand j'étais apprenti, on cuisait le pitivier, hop, on faisait reposer. Je me demandais pourquoi on fait reposer, mais tu vas voir, on le coupe et on voit la juste cuisson à l'intérieur du pigeon, du foie gras et tout ça. Et c'est ça qui est fascinant dans le pitivier, c'est que on a une succession. En fait, c'est un travail qui est énorme en amont. Et qui se révèle au moment d'une découpe.
C'est un plat traditionnel, le pitivier, mais il faut quand même rappeler ce que c'est.
Alors, pitivier, il y a différentes définitions, mais pour moi, c'est une farce qu'on va envelopper de pâte feuilletée, mais plutôt, pour moi, c'est une succession de strates. D'un morceau de viande entouré d'une farce, d'une feuille de chou et enveloppé de pâte feuilletée. Pour moi, c'est un peu la définition de pitivier, mais je pense que Déborah est quand même...
Alors, non, faut pas oublier, le pitivier, c'est aussi une spécialité sucrée. En fait, c'est ce qu'on appelle, et c'est particulièrement de saison, la galette des rois. C'est-à-dire que beaucoup de boulangers, de manière traditionnelle, font, pour schématiser, une galette des rois toute l'année. Ça s'appelle, c'est le pitivier, c'est-à-dire c'est deux abesses de pâte feuilletée et à l'intérieur une crème d'amande. Donc le pitivier existe aussi en version sucrée. Ouais. Effectivement, en version salée, on est sur une succession de couches, ce qui nécessite, et Hugo a très bien fait de le rappeler, c'est très technique parce qu'il faut que l'intérieur soit cuit sans rendre trop de jus qui détremperait la pâte. Il faut que la pâte soit cuite aussi. Et étant donné que, bien évidemment, c'est une croûte, tout est caché, donc la surprise, elle est en ouvrant. On n'a aucune certitude d'avoir atteint la juste cuisson. C'est pas parce que l'extérieur est cuit que l'intérieur le sera. Donc vraiment, quand vous voyez ça dans un restaurant, vous pouvez applaudir la prouesse de toute l'équipe derrière. C'est un énorme travail et ça justifie aussi le prix.
Et je pense que la vraie technicité d'un pitivier qui, par rapport à d'autres plats, c'est qu'en fait, c'est pas cuit dans un moule. Donc, c'est ça. On voit souvent les boules, donc c'est une boule qui est renfermée dans une pâte feuilletée et on nous dit, mais c'est cuit dans un moule. Non. C'est, en fait, il faut que cette boule, elle tienne sans, couler comme une galette au final. Donc, c'est ça, c'est cette difficulté. Mais, je pense que le jeu en vaut la chandelle.
Qu'est-ce que ça apporte de cuire en croûte?
Ça va, pour moi, ça va justement préserver l'humidité des aliments.
Ça empêche le dessèchement.
C'est ça, le dessèchement. Ça va développer aussi des saveurs. Quand on va, par exemple, cuire un fenouil en pâte à sel avec des graines de fenouil, le fenouil va se confire à l'intérieur.
Ça concentre.
Ça va diffuser en fait les saveurs aussi qu'on va mettre à l'intérieur. Je pense aussi à une dorade en croûte de sel et on va mettre des écorces d'agrumes sous la peau de la dorade. Eh bien, le fait que c'est cuit hermétiquement comme ça, ça va vraiment déjà préserver la dorade, diffuser les saveurs de l'agrume, mais l'assaisonner aussi. L'assaisonnement, ça c'est vachement important. Tout ce qui est en cuisson en croûte de sel.
Et quelle est la différence entre un plat en croûte, là votre livre Hugo Riboulet s'appelle Tout en croûte, et la tourte?
Ah mais la tourte est un plat en croûte, bien entendu.
Mais tous les plats en croûte ne sont pas nécessairement des tourtes?
Ah ouais, pour moi non, les plats en croûte, c'est pour ça que j'en ai fait le livre. Au début, on s'est dit, ouais les tourtes, mais je voulais vraiment traiter le sujet dans son intégralité. Et justement,
donc il y a 40 recettes, hein, y a
pâte à sel, croûte de sel, croûte de feuilletage. Et je me suis amusé aussi, croûte de riz, croûte de cornflakes.
Croûte de noix de coco.
Ouais, croûte de noix de coco, croûte de pain. Voilà, c'est
et
vraiment...
Je rassure quand même les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, parce que vous dites que c'est quand même très technique. On a l'idée que la pâte feuilletée, c'est ultra compliqué. Vous avouez dans votre livre que vous ne la faites pas toujours vous-même, que vous allez la commander chez votre boulanger. Ouais. Tout va bien. Carla Rebez, est-ce que la tourte correspond aux chaussons libanais? Il y a beaucoup dans votre livre, notamment.
Oui, il y a des chaussons libanais. Non, c'est pas la même technicité, mais je dirais l'intérieur ou ce qu'on met, les condiments qu'on met peuvent être dans une tourte. Mais nous, ça ne gonfle pas de la même façon. C'est très artisanal, c'est très main, c'est très petit. comme un bijou. Et donc, et on peut pas mettre parce qu'on n'a pas la même façon de manger. On peut mettre, on met par exemple des épinards, on met de la feta, de la tomate épicée et tout ça. On met du zaatar, on met ce qu'on veut à l'intérieur de sujo, des saucisses. Mais ça ne ferait pas ces tranches que vous travaillez et la même cuisson. Parce que là, c'est vraiment au four, cuisiné, alors que lui, c'est vraiment presque à la vapeur à l'intérieur.
Bon, alors il y a des différences, mais il y a quand même des. J'essaye de trouver les points communs aussi, hein, qu'il y a entre vous quand même. Vous êtes très complémentaires, et notamment j'en ai trouvé un qui fait le lien avec les pâtes de Déborah. C'est la tourte à la carbonara, et ça, ça nous permet de passer aux pâtes de Déborah du Pont d'Aiguet.
Voilà. Un peu de foie gras par là-dessus. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. Pas comme dans leur boîte merdique. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con.
Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne pâte à pouf? C'est pas mon style.
Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque.
Il est midi, presque 17 sur France Culture. Les bonnes choses parlent aujourd'hui de la cuisine réconfortante. On n'avait pas encore utilisé le terme rassurant comme Bernard Blier dans cet extrait de Ça n'arrive qu'à moi de Francis Perrin. Mais peut-être que les pâtes, Déborah Dupont d'Aiguet, ont un côté rassurant parce que c'est facile à faire déjà.
Oui, alors pour rater des pâtes, effectivement,
c'est possible. Hein
c'est possible.
Pas assez cuite, trop cuite.
C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, on a le SAV des pâtes ratées. Pour justement venir à la rescousse des personnes qui rateraient les pâtes. Mais généralement, en France, on est, il faut le dire, assez mauvais sur la cuisson des pâtes par rapport aux Italiens. On les cuit généralement dans pas assez d'eau et on sale pas assez. Donc c'est vrai que la règle commune, c'est de dire que pour 100 grammes de pâtes sèches, il faut 1 litre d'eau, il faut 10 grammes de sel. 10 grammes de sel, faites le test hein, de peser, c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de mettre. Mais c'est important parce que ça évite d'avoir à ressaler après.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez un premier sommaire. Enfin, notamment, hein, il y a beaucoup de choses intéressantes parce qu'on a très envie de faire toutes les recettes. Hein, on va les essayer. Mais alors, le premier sommaire, c'est les pâtes en sauce, les pâtes avec garniture, les pâtes gratinées ou sautées, les one pot pasta et dérivés. Ça, vous allez nous expliquer ce que c'est. Les pâtes en bouillon ou à la vapeur, les pâtes pas comme les autres. Ça aussi, oui. J'ai envie de savoir ce que c'est. Et puis un deuxième sommaire, deux pages plus loin, qui est ce que vous appelez une classification géante. J'ai envie de saveur iodée, voyage en Asie, il me faut de la verdure, envie d'un plat viandard. J'adore les pâtes creamy, alors attention, crémeuses, j'ai envie de pâtes farcies, etc. etc.
Et donc, puis il y a même l'index à la fin.
Il y en a pour tous les goûts.
Alors il y en a pour tous les goûts et pour toutes les manières de travailler un livre. Parce que ça, j'y tiens, et c'est sans doute ma casquette de libraire. J'ai remarqué en discutant avec les clients et les clientes qu'en fait, on a tous une manière différente d'aborder les livres de cuisine. Certains vont les aborder par « j'ai des courgettes dans mon bac à légumes, qu'est-ce que je peux faire avec ?» D'autres, au contraire, vont éplucher le livre méthodiquement et aller faire des courses spécifiquement parce qu'ils ont repéré une recette, c'est pas du tout les mêmes démarches. Donc, il faut réussir dans un livre à combler en fait les besoins et les envies d'un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de croiser les index. Le one pot pasta sur lequel vous êtes arrêté, c'est le fait de cuire tout ensemble dans la cocotte. Donc ça a été une grosse mode il y a une dizaine d'années avec plein de livres qui sont sortis là-dessus. Ça paraît une hérésie puisque justement on dit qu'il faut cuire les pâtes dans un grand volume d'eau. Sauf que ça fonctionne très bien. En fait, c'est une sorte de risotto. De risotto qu'on peut faire avec des pâtes. Alors on fait pas avec n'importe quelle pâte. Avec des spaghettis, ça peut être un petit peu compliqué, mais on peut y arriver. Donc tout ça, c'est vrai que ça va être expliqué, mais ça fonctionne très bien par exemple avec les petites langues d'oiseaux qu'on connaît sur la cuisine moyenne-orientale. Ça peut fonctionner aussi avec les oreillettes. Enfin voilà, on arrive à faire des sortes de ragoûts de pâtes cuites dans très peu d'eau à l'étouffée. Mais alors, la tourte de pâtes, ça, je n'en avais jamais entendu parler.
Bah voilà, la tourte à la carbonara.
Je connaissais la tourte aux pommes de terre, ce qui est déjà...
Oui, absolument.
Pâté du Bourbonnais.
Absolument, le pâté du Bourbonnais, c'est chez ma maman. Mais vous donnez, justement, la vraie recette de la pâte à la carbonara, c'est-à-dire zéro crème.
Oui. Alors que j'ai un papa qui ne fait des carbonara qu'avec des lardons et de la crème fraîche, mais là c'est vrai que non. Moi quand j'en fais, je fais de la vraie avec avec de la joue de porc et avec jaune d'œuf et parmesan.
Ah oui. Hugo Riboulet, vous confirmez? Pas de crème pour la carbonara?
Ouais, c'est guanciale, poivre voilà. Et pecorino romano.
Et, et le crémeux de la sauce s'obtient en fait avec l'eau de cuisson des pâtes. L'eau de cuisson des pâtes contient de l'amidon, on en prélève une louche, on en prélève deux louches et on va réussir à faire son émulsion grâce à ça. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture traditionnelle française et qu'on a piqué aux Italiens. Mais c'est cet amidon présent dans l'eau des pâtes qui permet d'obtenir le crémeux des sauces.
Et Carla Rebez aussi, vous faites des pâtes pour faire le lien avec Déborah.
Nous faisons des pâtes aussi. Nous faisons des pâtes. Cacio et zatar à la place de pépé. Et nous faisons une très bonne. Et ça, c'est comfort. Parce que c'est des pâtes qu'on fait avec du yaourt, de l'ail et du piment. Et si on veut un peu de zatar ou de semain. Et ça, c'est vraiment le comfort. Ça, c'est vraiment le dimanche qu'on n'a plus rien. On a juste des pâtes et les restes dans le réfrigérateur. On met tout ça ensemble et un peu d'ail.
Absolument. Page 150 de votre. Table libanaise, Carla Rebez, on trouve les spaghettis cacio. C'est quoi cacio?
Cacio, c'est un fromage italien.
Cacio et zaatar, ouais. Et les spaghettis au labné, ail et menthe séchée. Mais on ne trouve pas que ça, on ne trouve pas que des pâtes. Bien sûr, ça on le laisse pour Déborah.
Il y a deux sur 100.
Voilà, il y a un certain nombre. Le livre est épais, le livre est gros, le livre est riche. Ma table libanaise, c'est un livre qui s'inscrit dans le prolongement de ce que vous proposez dans votre restaurant, avec une cuisine qui est joyeuse, simple et généreuse. Hommage aussi, je pense, à votre pays, le Liban, pays qui souffre beaucoup.
C'est grand hommage.
Donc
à
ça
mon
permet
pays.
Un bol d'air et un bol de saveur qui fait du bien.
Ben oui, et ça fait mon Beyrouth à Paris. Je le refais ici chez moi, je reçois les gens et on cuisine de cette façon, tout en ayant le côté moderne, le côté européen, le côté, la France, les aliments, les produits, les très bons produits. Et les mixer ensemble pour créer quelque chose de réconfortant des fois créatif et toujours avec du goût. Et le goût de notre pays, ça vous renvoie en Méditerranée, ça vous renvoie à Paris et c'est coloré. Et c'est une tablée de partage. Il faut pas oublier ça, partage.
Vous dites c'est coloré. De fait, il y a un plat en particulier qui est très coloré chez vous, c'est le houmous que vous faites dans toutes les couleurs.
Oui. Je me suis mis une barre assez haute où chaque année je dois ajouter une couleur.
Et donc, attention, il n'y a pas tant que ça. Hein.
On essaye. C'est vrai parce que la couleur de base est assez beige, donc c'est pas évident après de jouer. Mais tant mieux qu'il y a des poivrons, tant mieux qu'il y a des épinards, de la roquette, de la betterave, de la spiruline, du sésame noir. Là maintenant, on a aux châtaignes, donc ça colore pas trop, mais ça donne beaucoup de goût. Donc nous, les petits pois. On fait tout. On fait tout et c'est goûteux, c'est très bon, mais c'est saisonnier.
Il y a un plat qui peut-être fait le lien en particulier entre la France et le Liban, puisque vous disiez, Carla Rebez, que vous étiez à cheval quand même entre les deux, et qui est un plat très réconfortant. Je pense que vous ne me contredirez pas, tous les trois. C'est le kebbeh parmentier. C'est une sorte de hachis parmentier, mais... Pourquoi ça vous fait rire?
Parce que hier j'en parlais avec un client qui me disait qu'il prenait la recette de Bocuse et donc il terminait toutes ses cuisines des fêtes avec le hachis parmentier, avec les restes de tout ce qui lui restait. Et je dis, ben tiens, regarde mon livre, il y a le kebbeh parmentier. Et il me dit, pourquoi? Je dis, ben moi j'ai allié ce que j'aime. J'aime beaucoup la kebbeh, qui est la viande de bœuf hachée avec des oignons, des pignons de pain, de la farce, du boulroule. Et j'aime le côté moelleux de du parmentier, des pommes de terre et tout. Et je voulais allier les deux. Et en vérité, quand on sait très bien faire ce plat, c'est exceptionnel. Parce qu'on a les deux. On a la France, on a le Liban. Et on a ce côté, je dirais, confortant, qui est là, qui quand à la première bouchée, on est déjà dedans. On veut continuer, on veut pas s'arrêter.
Alors, ce qui me surprend, c'est que dans cette émission, on n'a pas encore parlé beaucoup de plats sucrés. On a surtout parlé de plats salés, mais il existe quand même des plats réconfortants qui sont sucrés. Et comme on est le 5 janvier, c'est-à-dire veille du 6 janvier, si je ne m'abuse, et que vous avez parlé du pitivier, qui est un pitivier de saison, la galette des rois, je me vais me tourner vers Hugo Riboulet, parce que Hugo Riboulet, dans le Tout en croûte, votre superbe livre, il y a un pitivier de saison qui est une galette des rois, où vous faites une galette amande et graines de courge.
Oui, c'est ça, je voulais justement en faire une frangipane qui change un petit peu d'habitude, mixer les amandes, mais aussi les graines de courge torréfiées, et en rajoutant de la gourmandise, aussi un praliné de graines de courge. Donc c'était vraiment pour avoir une galette qui soit fidèle à ma cuisine, et voilà, pour pas faire comme tout le monde, et parce que moi j'adore les graines de courge, j'adore les pralinés salés, j'adore ça moi. Nous à la carte au restaurant, dans les entrées, il y en a toujours un, que ce soit tournesol, graines de courge, amandes, pralinés de fenouil aussi, ça va très bien, on peut faire plein de choses, et sans c'est vrai que ça, je pense, le mot praliné, ça peut rentrer dans la comfort food, parce que dès que les gens voient le mot praliné, et c'est vrai que chaque entrée où on met le mot praliné, c'est les best-sellers à chaque fois.
On entendait l'émission de Marina Carrère-Dancos hier sur cette même chaîne, Carnet de Santé. Elle recevait le professeur, tenez-vous bien, Le Joyeux, pour parler de la bonne humeur, parce qu'il est spécialiste de la bonne humeur. Et il citait une étude italienne, ça va vous parler, Déborah Dupont-Naguet. Il disait que voilà, une étude scientifique avait donné à écouter de la musique à des amateurs de glace italienne, mais de la musique qu'ils aiment. En plus de manger de la glace italienne, vous écoutez une musique que vous aimez et que là, ça paraît encore plus sucré, donc encore plus meilleur. On fera peut-être le test, mais on fera peut-être le test avec votre praline, Hugo Riboulet. Alors, effectivement, vous avez accepté et nous vous en remercions très chaleureusement de nous offrir des recettes, en plus de votre ouvrage, des recettes de vos ouvrages respectifs. Déborah, vous avez cité les gnocchis au pesto de pistache. Hugo, vous nous proposez le chou-fleur en croûte. Et Carla Rebez, vous nous proposez la soupe de lentilles. Mais je voudrais juste terminer en disant un mot sur les galettes, puisque je ne sais pas si vous savez que pour la deuxième fois, le syndicat des boulangers du Grand Paris a désigné Lionel Bonamy de la fabrique des gourmandises dans le 14e arrondissement de Paris, vainqueur de la meilleure galette des rois. C'était sans goûter la vôtre, Hugo, peut-être. Ce qui fait de cet artisan le troisième boulanger-pâtissier à être doublement récompensé en 38 ans. Et comme, à mon grand regret, je n'ai pas pu faire le tour de France de la galette et goûter les délices de nos régions, je passe un appel à vous qui nous écoutez, attention, pour que vous m'envoyiez les adresses de vos galettes préférées là où vous vivez, dans votre ville, dans votre village, où vous voulez, avec un petit mot quand même de deux lignes pour expliquer pourquoi vous avez choisi cette adresse-là. Écrivez-moi donc à caroline.broueux@radiofrance.com. Je sélectionnerai les premiers que nous mettrons sur la page de l'émission avec donc les trois recettes de nos trois invités. Je rappelle le titre de vos livres, Tout en croûte, Hugo Riboulet. C'est merveilleux, on a vraiment envie de tout faire et de tout goûter. Vous avez dit c'est technique, mais ça peut être très simple aussi, et c'est très accessible. Ma table libanaise, Carla Rebez, publiée chez Marabout. Une cuisine joyeuse, simple et généreuse, mais un livre épais et lourd. Et pour vous, Les pâtes de nos rêves, Déborah Dupont-Daguet, publiée chez First. Texture et technique ultime et qui donne très envie d'être faite aussi. Un grand merci à tous les trois d'être venus ce midi. Un grand merci également à Seam Boutata, à la documentation, à Taïsia Froidure, à la réalisation, à Jean-Guilain Meige, aujourd'hui à la prise de son. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, ainsi que pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses, bien sûr, de la chaîne. Rendez-vous sur l'application de Radio France. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture et un très bon appétit.